Il faudrait que je bosse à plein temps. Je suis chanteur, je chante pour mes copains. Je veux faire des tubes et que ça tourne bien, tourne bien. Je veux écrire une chanson dans le vent, un air gay, chic et entraînant, pour faire danser dans les soirées de Monsieur Durand.
Moi, c'est Laetitia. La musique qui vient d'être diffusée, c'est Le chanteur de Daniel Balavoine, un auteur-compositeur-interprète. Il était français et, malheureusement, est mort dans un accident d'hélicoptère. Mais ça n'empêche pas que nous aimons encore aujourd'hui écouter ses musiques.
Et moi, c'est Benjamin. Vous êtes sur Radio des Alpes.
On se retrouve aujourd'hui pour une émission sur le thème de la musique que les 3e années nous ont préparée. Durant cette émission, on va parler de musique, de films, d'instruments et puis quoi encore ?
Encore de looks vestimentaires, de chanteurs, des effets de la musique sur le cerveau.
Mais aussi de musicothérapie et de la télé-réalité. Et on commence directement par écouter notre sacrée Valentine, qui nous en fait, il faut le dire, voir de toutes les couleurs.
Ah, ça tu l'as dit. Bref, elle va nous parler des émissions de télé-réalité portant sur la musique.
Trop bien, allez, c'est parti.
Ciao, moi c'est Valentine, je suis en 3e du cycle à Sainte-Marie et j'ai 14 ans. J'ai décidé de faire un reportage sur les émissions de télé-réalité portant sur la musique et les chanteurs. Tu vois, c'est genre X Factor, Nouvelle Star et tout. C'est un moyen d'accéder au métier de chanteur qui n'existait pas avant. C'est assez récent quoi. Bon, premièrement, comment ça se passe? Quel est le concept de ces émissions? Les gens qui veulent participer, ils se rendent à des auditions dans une grande ville proche d'où ils habitent et ils doivent chanter une chanson devant un jury de 3, 4 ou 5 personnes. Le jury ne doit garder qu'un certain nombre de participants qui pourront accéder à l'étape suivante. Petit à petit, le niveau monte et il reste de moins en moins de gens. À un certain moment de l'émission, ce n'est plus le jury qui vote, mais le public, qui doit envoyer par SMS le numéro de celui qu'il veut voir rester. Il ne doit rester qu'un, le gagnant. Mais des fois, il y a des cas spéciaux où le gagnant finit moins célèbre qu'un autre candidat parti plus tôt. Par exemple, si on prend le cas de la 7e édition de X Factor en Angleterre, le vainqueur était Matt Cardell. Je pense que ça dit pas grand chose à beaucoup de monde. Parce que ouais, il est pas connu quoi, il a du succès surtout en Angleterre et encore. Mais si je te dis One Direction, ouais bon, là tout le monde connaît quoi, le célèbre boys band composé de 4 anglais et 1 irlandais mondialement connu. Pourtant, ils sont arrivés 3e derrière Rebecca Ferguson, une des deux finalistes, et Matt Cardell dont je vous ai parlé avant. Étonnant n'est-ce pas? Bon, peut-être que vous connaissez pas X Factor, parce que c'est plutôt connu en Angleterre et aux États-Unis. Il n'en a eu qu'une édition en France. Le gagnant était Matthew Raymond Barker. Le mec s'était fait recaler au X Factor UK. Et il s'est présenté en France et il a gagné quand même. Comme émission francophone plus connue, il y a la Nouvelle Star. Christophe Willem et Julien Doré sont les deux gagnants les plus connus. Bon, anecdote personnelle, il y a aussi l'idole de ma mère, Sohan, qui a gagné l'édition de 2009, mais il n'est pas trop connu. Ensuite, il y a aussi la Star Academy. Comme gagnant connu, Il y a Jennifer, Nolwenn Leroy et Grégory Le Marchal, RIP à son âme. Une nouvelle émission qui a apparu récemment, c'est The Voice. Le principe est presque le même que pour les autres. La seule chose qui change, c'est que le jury ne voit pas la personne quand elle chante lors des qualifications. Comme ça, le physique ne peut pas influencer le verdict. La chaîne sur laquelle passent les émissions comme ça, elle se fait des thunes surtout quand les gens envoient des SMS pour voter pour leur favori. 80 centimes le SMS à peu près. Ça fait beaucoup d'argent étant donné que des milliers de gens votent. Le candidat gagnant accède souvent à la possibilité d'avoir un contrat avec une maison de disques pour enregistrer un album et aussi de l'argent. Par exemple, les gagnants de Nouvelle Star reçoivent 100 000 euros et peuvent produire 2 disques chez Sony. C'est pas mal quand même. Alors si vous croyez avoir un talent en chant, je vous conseille d'aller auditionner. Ça coûte rien d'essayer, ça peut être qu'une bonne expérience. Et avec ce qu'il y a au bout, je pense que la motivation ne manquera pas. Voilà, c'est fini. À une prochaine sur Radio des Alpes. Bisous de moi.
Génial.
Oui, très bonne chronique. Perso, j'adore la télé-réalité.
Moi, je regarde pas trop la télé. Enfin bref, on va écouter notre gentille Evelyne.
Oui, elle va nous parler de la musicothérapie. Tu connais ?
Non, pas du tout. Lançons son reportage pour en savoir plus. Let's go.
Hello, hello la radio. Moi, c'est Evelyne et je vais vous faire prendre connaissance de la musicothérapie. Alors, j'espère que vous allez apprécier. Hein. Alors, tout d'abord, vous allez me dire, qu'est-ce que la musicothérapie ? La musicothérapie, c'est une pratique de soins, de rééducation ou d'aide qui utilise la musique et le son. Elle a pour but de rétablir et de maintenir la santé physique et psychique. En fait, c'est une approche qui met en jeu le corps, la sensorialité, l'affectivité, ainsi que les facultés intellectuelles et mentales. Donc la thérapie, elle s'appuie sur les liens étroits entre les éléments de la musique et l'histoire du patient, en fait. L'utilisation de la musique, c'est un moyen pour le patient de s'ouvrir à une plus grande expressivité, à une meilleure communication avec l'entourage, à développer ses potentialités créatrices, à analyser son rapport avec lui-même, au corps, aux émotions et aux autres. Après, à qui s'adresse la musicothérapie ? Alors en fait, elle s'adresse aux patients souffrant d'autisme infantile, de psychose chronique, de troubles d'identité, d'état dépressif, aigu et chronique, de névrose phobique ou obsessionnelle, de troubles anxieux permanents, de troubles du comportement, de troubles addictifs, d'anorexie, de dépendance à la drogue ou à l'alcool, aux patients aussi atteints de, souffrant d'atteintes neurologiques, d'état déficitaire, de l'Alzheimer, de déficit intellectuel et de déficit sensoriel, de problèmes psychomoteurs et de troubles du langage. Les techniques. Alors il y a différentes techniques de musicothérapie en fait, c'est adapté aux différentes personnes. Donc il y a d'abord le chant pour les personnes qui ont des troubles du langage, le jeu sur les instruments pour les personnes qui ont des troubles moteurs, et la composition pour faciliter le partage de sentiments, d'idées et d'expériences, et encore l'écoute de la musique pour aider à développer l'attention et la mémoire, et aussi pour évoquer des souvenirs. La musicothérapie, elle est appliquée chez les enfants, chez les ados et chez les adultes, donc tout le monde peut avoir recours à la musicothérapie. Elle est pratiquée soit individuellement, soit en groupe. Après, que fait la musicothérapeute ? Alors, la thérapeute, en fait, elle commence un processus clinique en étudiant les rapports médicaux du patient. Après, une fois qu'elle connaît son histoire, elle va lui proposer un entretien et elle va prendre des notes pour finalement pouvoir analyser ses notes et voir ce que ça donne, en fait. Ensuite, la thérapeute, elle va établir des objectifs et elle va élaborer un plan de traitement. Après quelques temps, la thérapeute elle va évaluer le plan pour déterminer si les méthodes employées elles sont efficaces et aussi si la personne elle progresse selon les buts et les objectifs, parce que c'est un peu le but, c'est quand même de progresser, donc voilà. Après, pour finir, quelles sont les qualités professionnelles requises pour être thérapeute, musicothérapeute ? Alors, le thérapeute, ça doit être un musicien capable de jouer plusieurs instruments, de chanter et d'improviser dans des styles variés. Donc il y a des études en théorie de la musique, histoire de la musique, harmonie, jeu en solo et en groupe, et aussi la composition. Donc ça, en gros, c'est un peu la base qu'il faut avoir pour les compétences et les connaissances du musicothérapeute. Après, la formation professionnelle du musicothérapeute, elle allie la formation théorique et pratique. Donc ils acquièrent, quand ils sont étudiants, ils acquièrent la connaissance du développement normal et pathologique de l'être humain, des symptômes, des problèmes et des besoins liés aux personnes qui souffrent de maladies et de troubles divers. ainsi que des différentes approches des traitements et des modalités. Donc voilà, c'était en gros un peu tous les renseignements que j'ai trouvé à vous partager sans partir dans le trop compliqué. J'espère que ça vous a pas trop ennuyé. Moi en tout cas, j'ai kiffé passer un moment avec vous. Allez, kiss hein.
Intéressant tout ça.
Oui, super intéressant. J'ai appris plein de choses et j'espère que vous aussi. Et sans plus attendre, nous allons continuer avec une interview en direct sur le métal.
Oui, notre cher Alban va interviewer un musicien qui s'appelle Samuel Michaud.
Allez, on vous laisse découvrir tout ça.
Bonjour, je m'appelle Alban Roduit et j'ai réalisé pour vous, chers auditeurs, l'interview de Monsieur Michaud, titulaire de 3e année au cycle d'orientation de Martinique. Fan de métal et membre du groupe Downless dont il est le bassiste, il a répondu à mes quelques questions. Pour les personnes qui ne le sauraient pas, Downless est un groupe créé en 2003 avec comme style musical le métal. Il est à ce jour moins actif mais toujours présent. Ils ont à leur compte deux CD, beaucoup de concerts et un magnifique clip tourné au cœur des Alpes valaisannes. Si vous voulez le voir, allez mettre Winds of Fat sur YouTube, je vous le conseille vraiment. Bon, après toutes ces belles paroles, passons aux choses sérieuses. Place à l'interview.
Bonjour Monsieur Michaud.
Bonjour.
Alors vous êtes prof au CO de Sainte-Marie depuis combien d'années?
Je suis prof à Sainte-Marie depuis 9 ans. C'est la 9e année.
D'accord. Et pourquoi le métier de prof et pas un autre?
Alors j'ai commencé avec d'autres boulots comme mécanicien électricien et puis j'ai changé pour devenir prof parce que j'adore le contact avec les ados et puis pour les vacances.
Bon, alors pensez-vous arrêter votre travail actuel pour vous consacrer seulement à la musique?
Non, non, c'est pas possible. C'est impossible de faire que de la musique.
Et depuis quand vous aimez le métal exactement?
J'écoute du métal depuis que je suis tout petit.
C'est quoi votre groupe favori?
Alors, j'écoute depuis que je suis tout petit Halloween. Puis actuellement, j'écoute beaucoup de Therion, Rhapsody ou Nightwish.
Alors, et pour finir, pourquoi le métal et pas un autre genre musical?
Alors, le métal, parce qu'il y a tout, ce que j'aime dans la musique, parce qu'il y a beaucoup d'ambiance dans les concerts, parce que les gens, ils sont sympas, et puis facile d'accès.
Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et au revoir.
Au revoir.
Et voilà, c'est terminé. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Et je remercie bien sûr Monsieur Michaud pour m'avoir accordé un peu de son temps. Et vraiment, pour tous les fans de métal ou les curieux, allez voir leur site www.downless.com. Je vous le conseille. Et merci encore et à la prochaine. C'était Alban Roduit sur Radio des Alpes.
Pas mal tout ça. Très sympa ce monsieur Michaud.
Oui, super gentil. Bref, passons. Dis-moi Letty, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu écoutes de la musique?
Je sais pas grand-chose en fait. C'est comme si je partais dans un autre monde. Pourquoi?
Eh bien parce que la jolie Océane va nous parler de l'effet de la musique sur notre cerveau.
Oh, trop bien. J'ai hâte d'entendre ça.
Pareil. Allez, écoutons-la.
Hello tout le monde. Je m'appelle Océane et je suis en 3e année du CE de Sainte-Marie et je vais vous parler de l'effet de la musique sur le cerveau. Pour commencer, on est d'accord que vous n'oublierez jamais certaines chansons parce qu'elles sont gravées dans votre cœur. Mais elles sont surtout gravées dans votre cerveau. Elles sont stockées dans la partie dite le circuit du plaisir et de la récompense. Cette partie s'allume automatiquement quand votre chanson préférée passe à la radio et ça vous fait monter le volume. Ça active la production de molécules chimiques comme la dopamine, l'endorphine et l'adrénaline. Bref, ça c'était la partie scientifique, neurologique, passion. La musique peut agir comme un antidépresseur, mais elle peut aussi avoir des effets stimulants, comme quand vous faites du sport. Plus le rythme de la musique sera rapide, plus ça vous donne la pêche de continuer. Par contre, j'ai fait un petit sondage sur les automobilistes. Je vais vous poser la même question qu'avant. Quand vous cherchez une place dans un parking, ou tout simplement quand vous lisez des panneaux dans un rond-point, vous ne baissez jamais le volume de votre poste? Si oui,
vous faites partie des 8 personnes sur 10 que j'ai interrogées. Et si vous ne savez pas, bah la prochaine fois, soyez plus attentifs, parce que c'est vraiment révélateur. Ça nous prouve combien la musique occupe une énorme place dans notre esprit. Allez, une petite découverte pour finir cette chronique. Une docteure canadienne a affirmé que des patients atteints d'Alzheimer arrivaient à reconnaître des musiques alors qu'ils ne reconnaissent plus les membres de leur famille. Ça encourage vraiment les chercheurs et ils arrivent de plus en plus à communiquer avec eux grâce à cette musique. Voilà, c'est fini. Merci de m'avoir écouté et j'espère que je vous ai au moins appris quelque chose. Alors à tout bientôt sur Radio des Alpes. Bye bye!
Trop bien!
Ouais, j'avoue. Bon, maintenant nous allons écouter une musique des Little Mix.
Oui, c'est un groupe de 4 filles, Liane, Perry, Jade et Jessie. C'est un groupe anglais qui ont décroché leur célébrité grâce au programme télévisé X Factor.
Le titre de la musique, c'est Move.
J'adore cette chanson. Bon, écoutons-la.
Hey baby, tell me your name. I got a fever for you. I just can't explain. But there's just one problem. I'm a bit old school. When it comes to loving, I ain't chasing you.
Voilà cette super musique terminée, et on enchaîne avec notre sympathique Mathias.
Il va nous parler d'un grand artiste, Freddie Mercury, tu connais ?
Non, je connais pas, mais on en apprend tous les jours, alors c'est parti pour écouter Mathias.
Salut les gens, mon nom est Mathias. Vous m'avez très certainement entendu dans l'une des interviews du comptoir, où nous interrogeons certains stands. On se retrouve aujourd'hui pour aborder un thème sur la musique, ou je devrais plutôt dire un chanteur. Moi, j'ai choisi Freddie Mercury, un des meilleurs chanteurs du XXe siècle. Freddie Mercury est né le 24 novembre 1991 à Stone Town, dans le protectorat de Zanzibar. C'est un auteur-compositeur, un chanteur et un musicien britannique. Il a établi sa grande réputation de chanteur avec son groupe Queen, avec lequel il a parcouru beaucoup de chemin dans sa route vers le grand succès de sa carrière. Beaucoup de gens doivent connaître, j'en suis sûr, la chanson qui a fait un grand carton, We Are The Champions, qui est très souvent entendue dans la radio ou autre part, sur internet par exemple. Mais ma chanson favorite n'est peut-être pas la plus connue, mais c'est celle que je préfère. Son titre est Another One Bites the Dust. Et vous avez peut-être remarqué, pour ceux qui ont de la culture générale, c'est celle que j'ai utilisée pour ce reportage. C'est l'un de ses grands succès, même s'il n'est pas souvent répertorié. Il a aussi chanté d'autres chansons encore célèbres aujourd'hui, comme Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, Don't Stop Me Now et Crazy Little Thing. Il a aussi fait des albums en solo comme Mr. Bad Boy en 1985 et Barcelona en 1988. Il a aussi chanté en duo Leaving My Home et I Was Born to Love You avec la cantatrice Monatea Cabalé. Il apparaît dans une liste d'un journal britannique nommé Rolling Stone. Il est placé à la 58e place des plus grands chanteurs de tous les temps. C'est déjà pas mal. En 1991, le public remarque qu'il est affaibli depuis plusieurs mois. Finalement, il meurt le 24 novembre 1991 d'une pneumonie suite à sa confession publique avouant qu'il était porteur du VIH ou du sida. Je trouve que c'était un grand chanteur qui a chanté d'incroyables chansons. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de vous rendre à Montreux, regardez vers le bord du lac. Il y a normalement une statue le représentant tel qu'il était au concert de Wembley en 1986. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que vous viendrez nous écouter sur radiobus.fm. Je vous dis au revoir et à bientôt.
Très bonne chronique.
Oui, super. Maintenant, notre star brésilienne, Noah, va nous parler des différents looks des chanteurs par rapport au style de musique.
Je comprends pas vraiment.
Eh bien, Noah va t'aider à y voir plus clair.
Dak, c'est parti.
Eh, c'est pas l'impression que l'on ait le style vestimentaire des différents chanteurs est choisi selon ce qu'ils chantent. Par exemple, un rappeur et une chanteuse d'opéra n'ont pas vraiment le même choix d'habits, si on peut dire. Si on retombe pas trop loin en arrière, dans les années 90, Tupac ou encore plus récent Wiz Khalifa, leur style, ça se résumait plutôt à bling bling, j'ai des sous et tout. Et maintenant c'est plus, vas-y que je te montre mes habits marque trop t-shirt. Mais bon, heureusement qu'il y a encore des belles chanteuses d'opéra qui essayent de garder le style d'avant. Parce que perso, je les vois pas arriver sur scène en casquette, basket. Pour elles, c'est plutôt jolie robe, jolie chaussure et jolie coiffure. Ou si on part encore moins loin, dans votre ville, vous regardez sûrement comment les personnes dans la rue s'habillent. Un fan de AC/DC, on le remarque tout de suite avec ses t-shirts noirs et des fusils squelettes. Je suis sûre que vous en avez déjà vu. Mais bref, revenons plutôt sur les habits des chanteurs. D'ailleurs, j'ai une chanteuse en tête, très connue et qui ne passe pas inaperçue avec son style un peu foufou. Vous avez deviné ? Mais oui, bien sûr, cette sacrée italienne Lady Gaga et ses vêtements tapent à l'œil. Mais bon, c'est comme ça qu'elle s'est fait connaître. En gros, ici, l'habit fait bien le moine. Encore des artistes connus grâce à leur style, hors du commun, que vous devez aussi sûrement connaître. En 1973, oui, un certain groupe appelé Kiss, je crois. Oui, c'est bien ça, Kiss. Très connue cette musique. En fait, vous savez pourquoi ? Ouais. Uniquement grâce à leur allure. Ces maquillages noirs et blancs et leur coupe terrifiante. Et ben, difficile à croire que l'estime personnelle chez un chanteur est important pour se faire aimer et se faire connaître. D'ailleurs, eux aussi ont voulu voir si c'était bien leur apparence qui les a fait connaître en enlevant tout le maquillage et en se coiffant normalement. Et personne ne les a reconnus. Enfin, personne n'a connu la chanson plutôt. Étonnant, non ? Bon ben, j'ai fini mon petit reportage sur le style des chanteurs connus. Alors je vous dis ben bonne journée. J'espère que vous n'avez pas ennuyé. Et merci de m'avoir écouté. A plus.
C'est fou comme la musique peut influencer la manière de s'habiller.
Ouais, c'est clair. Bon, maintenant nous allons écouter une musique de Logobi GT, sucré salé.
Le Gobi GT est un groupe de musique et de danse français populaire dans le genre le Gobi. On vous laisse découvrir la musique. Benjamin, tu joues d'un instrument ?
Non, pas du tout. Mais Simone va nous parler d'un instrument très connu, le piano.
Et maintenant, nous allons écouter Simone. Allez, en voiture !
Bonjour, je m'appelle Simone. Je vais vous parler du piano à queue. Alors, le piano à queue est un instrument à cordes horizontales. Il est différent du piano au droit, qui a des cordes verticales. On peut dépasser 3 notes de long et il est constitué de cordes frappées pour produire le son. D'un clavier avec germainement et tant de touches, d'un couvercle s'ouvrant 45 degrés, d'un pupitre pour poser les partitions, d'un pédale et 3 pédales pour faire durer le son plus longtemps ou plus l'affaiblir, et un meuble en bois qui sert de caisser la caisse de résonance. Les grandes marques comme Steinway ou Wayne fabriquent ensemble la plupart de pièces à la main. Il peut coûter très cher. Les compositeurs de musique pour piano les plus célèbres sont Beethoven, Mozart et ou Chopin. Les interprètes célèbres sont Petrucciani, Ray Charles, mais aussi Monsieur Samuel Emery, mon professeur de musique au CEU Sainte-Marie. Je vais l'interviewer pour vous. Bonjour Monsieur Emery.
Bonjour Simone.
Depuis combien de temps est-ce que vous faites du piano ?
Je fais du piano depuis l'âge de 16 ou 17 ans, pas avant. Et avant, je faisais de l'orgue, j'étais organiste dans les églises. C'est pour ça que j'ai commencé le piano très tard.
Pourquoi avez-vous choisi de jouer du piano ?
Pour abandonner l'orgue, c'est un instrument, l'orgue, on est un peu tout seul, perché au sommet d'une église. Et puis le piano, c'est un instrument très convivial, on peut faire plein de styles de musique différents. On peut jouer à plusieurs, on peut faire de l'accompagnement, on peut jouer tout seul. C'est un instrument polyvalent, c'est pour ça que j'ai choisi le piano. Ça va très bien pour accompagner les élèves en plus.
D'accord. Avez-vous pris des cours, si oui, ou avec qui ?
Oui, j'ai pris des cours au Conservatoire de Fribourg avec Jean-Claude Charez.
Quel style de musique peut-on jouer au piano ?
On peut jouer plusieurs styles de musique différents. On peut jouer du classique, on peut jouer du jazz, on peut jouer de la chanson contemporaine, de la musique de film. En musique classique, on peut par exemple jouer le fameux Pour Élise de Beethoven. On peut jouer des musiques de films aussi, comme par exemple Chimay, qui est tiré du Professionnel.
Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Au revoir.
Au revoir, merci.
Trop bien.
Ouais, super. Et Letty, t'aimes quoi comme genre de film ?
J'aime un peu tous les genres. Mais tu sais, j'adore les films d'horreur avec la petite musique derrière qui fait trop stresser.
Haha. Bah, vu que tu parles de musique de film, eh bien notre fuir de son vrai nom Pierre nous a préparé une chronique sur ça.
Trop cool, j'ai hâte d'écouter ça. Allez, on y va.
Bonjour, je m'appelle Pierre et je suis en 3e année du cycle à Martigny. Je vais vous accompagner pour vous parler des musiques de films. Mais que serait aujourd'hui un film sans musique ? À l'aube du cinéma, le son n'existait pas, mais la projection du film était souvent accompagnée par un piano ou un orchestre. C'était pour, par exemple, couvrir le bruit du projecteur, rassurer les spectateurs dans le noir, distraire l'oreille, renforcer le rythme ou l'émotion. Le problème que rencontraient les musiciens au début du XXe siècle était la synchronisation entre son et image. Quelques temps plus tard, les producteurs, cinéastes et musiciens prirent enfin conscience du rôle de la musique et par conséquent, les mélodies dépassèrent le rôle d'illustration pour apporter une dimension supplémentaire, comme le film Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Le thème musical servait dans cet exemple à amener une véritable angoisse. Dans les années 70, la commercialisation des musiques de films devient populaire et les ventes de bandes originales explosent. Je ne pouvais pas bien sûr ne pas parler des musiques de films célèbres. He is a Pirate dans Pirates des Caraïbes, In Dream dans Le Seigneur des Anneaux, les thèmes musicaux d'Harry Potter, James Bond et de La Panthère Rose pour ne citer que. Je vous remercie évidemment de m'avoir écouté sur le sujet des musiques de films. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Ciao. Bon.
Pire cool.
Ouais, trop bien. Bon, toutes bonnes choses ont une fin, et c'est pour ça que je vous dis au revoir, chers auditeurs.
Eh oui, malheureusement, on doit vous quitter. Mais à la suite de l'émission, de la musique sera reprise par nos amis Adriano et Jody. Mais on vous laisse avec la musique géniale The Monster de Eminem et Rihanna.
Rihanna est une chanteuse de R&B qui est originaire de Barbade.
Et Eminem est un rappeur américain. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt sur Radio des Alpes.
Ciao!
Éphémère, n'était que temporaire, c'est le cœur gros qu'on part à l'apéro. Maintenant, on rend l'antenne et on vous dit à la prochaine!
I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy, crazy.
I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. But wanting my cake and eat it too, and wanting it both ways. Fame made me a balloon, cause my ego inflated when I flew sleep. And it was confusing, cause all I wanted to do was be the Bruce Lee of loosely abused ink. Use it as a tool when I blew steam. Woo! Hit the lottery, ooh wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. It was like winning a used me. Ironic cause I think I'm getting so huge I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think, cause I'm
friends with the monster.
much of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it. Cause you never know when it all could be over tomorrow, so I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts spawn from.
Yeah, ponder it, do you wonder? No wonder you're losing your mind the way it wanders.
I think you've been wandering off down yonder and stumbled on to Jeff Van Vondren. Cause I need an interventionist to intervene between me and this monster and save me from myself and all this conflict. Cause the very thing that I love's killing me and I can't conquer it. My OCD's talking me in the head, keep knocking. Nobody's home, I'm sleepwalking. I'm just relaying what the voice in my head saying. Don't shoot the messenger, I'm just
I'm friends with
the Call me crazy, but I had this vision.